Salut, c'est Clotilde Seille, bienvenue au National. Cette semaine encore, je suis allée faire des petites recherches dans les journaux francophones de partout au Canada pour aller voir ce qui s'écrit chez les autres, de quoi on parle. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont abordés, dont on parle peut-être moins dans la province de Québec? Alors, je vous propose d'écouter tous ces papiers-là que j'ai pour vous. Il y sera question du monde autochtone, il y sera question de l'histoire des Noirs. On ira aussi visiter une exposition à Yellowknife, entre autres. Allez, on commence avec l'action.ca. C'est un journal qui paraît à London, en Ontario, avec ce titre, aperçu du patrimoine de la région de London lié à l'histoire des Noirs. C'est écrit par Philippe Thivierge. En 1793, le gouvernement du Haut-Canada devint la première colonie de l'Empire britannique à interdire l'importation d'esclaves. Ce même empire bannit l'esclavage sur l'ensemble de son territoire en 1834 par décision de Londres. L'Amérique du Nord britannique constituait donc un refuge pour les esclaves américains en fuite, et en 1860, ce sont 20 000 Noirs qui se trouvaient sur le territoire du Haut-Canada, alors devenu le Canada Ouest, la future province de l'Ontario. Tous cependant n'étaient pas d'anciens esclaves, puisque l'attrait pour cette terre de liberté remontait à assez loin pour que certains y soient nés. Des communautés noires existaient, ça et là, dans le sud de la colonie, et la région de London n'était pas en reste à ce chapitre. C'est d'ailleurs à 20 minutes de route au nord de la ville, à proximité de ce qui est aujourd'hui l'agglomération de Locan, que se trouvait le premier village de pionniers noirs au Canada. Fondé en 1829, le hameau de Wilberforce compta un peu plus de 150 habitants à son apogée. Créé à l'initiative de Noirs désirant quitter Cincinnati, une ville où régnait le racisme en dépit de l'absence de lois esclavagistes, Wilberforce constituait une communauté agricole où les conditions de vie étaient dures. Les colons, en majorité d'anciens citadins, réussirent à rendre leur village fonctionnel au plan économique et social, mais se découragèrent face à la charge de travail que demande un établissement agricole. Des dissensions dans la communauté contribuèrent à son déclin et à sa disparition aux environs de 1850. Une plaque commémorative et un vieux cimetière sont aujourd'hui les seuls témoins de son existence. Au milieu du 19e siècle, London n'était pas une grande ville, mais comprenait tout de même une variété intéressante de secteurs économiques, assez pour permettre à chacun d'y prospérer en fonction de ses goûts et aptitudes. La majorité des Noirs, fuyant les États-Unis pour le Canada, s'établirent dans les villes et London était l'une de ces destinations. La présence d'une communauté noire y est attestée dès les années 1830 dans le secteur des rues Thames et Horton Est. À titre anecdotique, mentionnons qu'à London, les deux premiers crieurs publics, un emploi payé par la municipalité et dont la fonction était d'annoncer aux foules les proclamations officielles, étaient des Noirs. Cela illustre l'éventail d'occupations professionnelles détenues par les 400 Afro-Canadiens qui vivaient dans cette ville en 1860. L'un était pharmacien, un autre pasteur, d'autres encore enseignants et marchands. Bref, la communauté était prospère et, comme on le dirait de nos jours, bien intégrée. Deux édifices patrimoniaux illustrent aujourd'hui cette époque. L'un, érigé en 1848, était alors une chapelle appartenant à l'African Methodist Episcopal Church. Après avoir servi de résidence privée pendant longtemps, le bâtiment fut déménagé en novembre 2014 de son site originel sur la rue Thames, au lieu qu'il occupe présentement à côté de l'église Beth-Emmanuel sur la rue Gray. Alors pourquoi cet emplacement? Tout simplement parce que la communauté noire, devenue plus prospère au fil des ans, déménagea peu à peu dans ce secteur dans la seconde moitié du 19e siècle et que l'église Beth-Emmanuel, construite en 1870, fut son second lieu de culte, constituant ainsi l'autre édifice intimement lié à son histoire. Cependant, après la fin de la guerre de sécession aux États-Unis en 1865, de nombreux Noirs commencèrent à quitter l'Ontario pour retrouver leur famille restée au sud de la frontière. les quelques Noirs venus des États-Unis ou d'ailleurs qui s'établirent ensuite à London pour une raison ou pour une autre ne se fixèrent pas dans les environs de l'église Beth Emmanuel, de sorte que le quartier noir disparut à la fin du 19e siècle. La Première Guerre mondiale, avec le brassage de population qu'elle engendra, donna un second souffle à la communauté noire de London. En 1930, ils étaient environ 250, selon une estimation de la Canadian League for the Advancement of Colored People, un organisme fondé à London en 1924. L'âme du mouvement était James Jenkins, né aux États-Unis et établi en Ontario depuis 1907, qui fonda également un journal, The Dawn of Tomorrow, consacré aux affaires intéressant les Noirs au Canada. Au sommet de la popularité en 1971, il était distribué à 48 000 exemplaires, dont 21 000 par abonnement. L'Université Western conserve les archives de cette publication. Les temps changent, les flux migratoires se modifient et la communauté noire de London n'a aujourd'hui guère de lien avec celle des États-Unis. Le système esclavagiste qui a persisté dans ce pays jusque dans les années 1860 ne fait pas partie de l'histoire familiale de la grande majorité des Noirs vivant en Ontario. Mais qu'ils soient d'Afrique, des Caraïbes, d'Amérique du Sud ou d'ailleurs, tous sont les héritiers de ce patrimoine local qui immortalise le parcours de leur communauté. Cœur de Soweto en Afrique du Sud. Les chants d'Afrique du Sud, à chaque fois, ça me bouleverse. Je ne sais pas pour vous, oui, c'est vrai, on a un petit peu le poil des bras en ce moment, tout soulevé. Bon, allez, on quitte l'Afrique du Sud et on se retrouve à Shediac, au Nouveau-Brunswick, là où est publié le Moniteur acadien, dont j'ai extrait cet éditorial. Il est signé Alcide F. Leblanc. Le titre « Comment améliorer notre langue française ?» Depuis assez longtemps, et surtout depuis ces dernières semaines, on dirait qu'il existe une nouvelle conscience en Acadie sur la qualité de notre langue. À tort ou à raison, certains prétendent qu'elle est en décadence. Boileau, l'un des grands poètes français du XVIIe siècle, écrivait une réflexion qui devrait tous nous aider à améliorer notre langue. Avant donc que d'écrire, apprenez à penser. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Pour bien parler et pour bien écrire notre langue, nous devons être exposés à la lecture régulière, qui est l'outil privilégié car elle nous donne l'occasion de réfléchir, de penser et d'enrichir le vocabulaire. Lorsqu'on peut penser, on a de meilleures possibilités de s'exprimer. Avec un vocabulaire mieux garni, on a plus de chances de dire le fond de notre pensée et de nos sentiments. À l'école, la responsabilité d'améliorer le français chez les jeunes ne doit pas se limiter uniquement au personnel chargé de ce rôle. Ne revient-il pas aussi à l'ensemble du personnel d'avoir ce même souci ? Au foyer, les parents peuvent également faire leur part auprès de leur progéniture en leur offrant de bons livres, revues, journaux, hebdos écrits en français. Pourquoi ne pas regarder avec eux des émissions ou des nouvelles en langue française ? En d'autres mots, l'amélioration de la langue est une responsabilité personnelle, familiale et scolaire. Oublie-t-on peut-être un autre facteur important dans l'apprentissage de la langue française, écrit toujours Alcide Leblanc. C'est celui de la fierté de notre langue, qui a une longue histoire de plusieurs siècles, une langue qui s'est solidement établie en sol d'Amérique en 1604, qui est parlée dans plus de 50 pays du globe terrestre et par plus de 250 millions de personnes, qui a permis à près d'une vingtaine d'écrivains français de remporter le prix Nobel de la littérature, symbole de l'excellence littéraire internationale. En aimant individuellement et collectivement notre langue, on fera davantage. Chaque instant de notre vie, de grands et de nobles efforts pour bien la lire, la bien parler et la bien écrire tout en évitant de la polluer comme on le fait hélas actuellement avec notre planète. Et je vous transporte dans un clignement d'œil en Saskatchewan. C'est une revue, un journal qui s'appelle l'eauvif.ca et on nous parle d'un projet qui est né depuis peu de temps là-bas et qui est celui d'éveiller les jeunes à la musique. Alexandre Chartier aime débuter ses ateliers d'éveil musical pour les jeunes en disant « La musique, c'est du bruit, mais le bruit n'est pas de la musique ». Sauf si tu le décides. Surtout connu dans la communauté fransaskoise pour son travail à la direction de la Société historique de la Saskatchewan, M. Chartier est avant tout musicien. C'est à ce titre que l'Association des parents fransaskois l'a invité à animer un atelier d'éveil musical pour les jeunes enfants et leurs parents à Saskatoon et Prince Albert. L'atelier d'éveil musical était destiné aux enfants de 3 à 5 ans, accompagnés de leurs parents, et a permis aux participants d'explorer la musique par le biais des composantes suivantes – rythme, nuance, pulsation, etc. Tout au long de l'atelier, les enfants et les parents développent ensemble leur sens de l'écoute par des jeux musicaux autour de thèmes variés. Les enfants ont eu la chance de manipuler et d'écouter différents instruments. Des activités d'exploration corporelle et vocale ont permis de bien ressentir la musique. M. Chartier s'est montré enchanté de son expérience. J'aime beaucoup faire découvrir la musique, autant aux enfants qu'aux adultes. Au-delà de l'enseignement classique ou même de la langue, j'aime travailler avec les gens pour qu'ils adoptent une façon différente d'aborder la musique et l'art. L'expérience est sensorielle et toujours axée sur la dynamique du groupe. Tout le monde doit participer, chanter et partager. Ainsi, même dans un atelier pour enfants, le parent en apprend tout autant, soit par le langage ou par les chants, soit par la musique, tout simplement. L'atelier d'éveil musical a été développé à partir d'un programme que M. Chartier avait développé et offert en français pour le Petit Conservatoire au Conservatoire de l'Université de Regina de 2013 à 2015. Musicien saxophoniste spécialisé dans les musiques improvisées et dans les musiques du monde, Alexandre est diplômé des conservatoires de Paris, de Tulle et de Limoges en France. Même si les deux ateliers n'ont attiré que 9 enfants, plus les parents, il est à espérer que l'expérience sera répétée. Thank you.
chaque chose, à chaque pas, je trouve un peu de toi. C'est la chanson du souvenir qui ne veut pas mourir. C'est toute une musique qui me parle de toi. C'est toute une musique qui me suit pas à pas. C'est toute une musique qui vient, qui revient me chercher. Moi qui croyais avoir tout oublié. C'est toute une musique qui passe dans ma tête. C'est toute une musique qui vient comme une fête. C'est toute une musique du temps où nous étions certains de vivre pour toujours le grand amour, oh, le grand amour. J'entends ta voix, j'entends ton pas, j'en tremble à chaque fois. Ils ont ta voix, ils ont ton pas, mais ce n'est jamais toi. C'est toute une musique qui me ramène à toi. C'est toute une musique qui revient malgré moi. C'est toute une musique qui reste, qui restera, je crois. Entre nous deux, comme un cadeau d'adieu. C'est toute une musique qui brûle ma mémoire. C'est toute une musique, c'est toute notre histoire. C'est toute une musique qui fait que se brise ma vie. Et c'est toujours ainsi un grand amour, un grand amour. C'est toute une musique qui gronde dans ma tête. C'est toute une musique comme un bruit de tempête. Et pourtant j'ai besoin encore de l'entendre plus fort. Car avec elle, je revis notre amour, tout notre amour. La la.
Ah, la voix riche et lumineuse de Monique Lérac sur les ondes de Canal M. Je vous transporte maintenant à Cornwall, dans le journal francophone de Cornwall, qui nous parle cette semaine, c'est Francine Racine de ce journal, du Centre Agape, A-G-A-P-E accent grave, et de Jocelyne Gosselin, qui nous dit « J'ai une bonne vie, donc je me dois de redonner ». Un sourire aux lèvres, Madame Gosselin s'assit sur l'une des chaises ayant été donnée au Centre Agapé. C'est dans un petit local qu'elle divulgue ce qui l'a poussée à passer la plupart de ses mercredis au sein de l'organisme à but non lucratif. Rappelons que le Centre Agapé est la plus importante organisation de secours contre la faim à Cornwall, fournissant de la nourriture d'urgence et l'accès à des services à environ 5000 personnes dans le besoin à travers la ville. De plus, celui-ci offre aux habitants de Cornwall une friperie ainsi qu'un deuxième petit magasin, celui-ci étant ouvert pour les clients du centre seulement. « Quand j'habitais à Montréal, je faisais du bénévolat au Chénon », a fait valoir Madame Gosselin. « Donc, quand j'ai déménagé à Cornwall, c'était tout naturel que j'offre mes services au centre Agapé. Fondé en 1932, le Chénon s'est donné pour mission d'accueillir les femmes en difficulté. De plus, Madame Gosselin, une retraitée, dit se sentir utile lorsqu'elle participe au roulement du centre. « Je me sens utile, je me sens bien », a-t-elle expliqué. Elle est l'une des 40 bénévoles qui, avec les employés du centre Agapé, desservent la population en difficulté de Cornwall. « Nous travaillons tous fort », a dit la bénévole. « Nous avons tous notre rôle à jouer. » C'est dans un grand espace genre entrepôt situé derrière le magasin de seconde main qu'une véritable armée de bénévoles et d'employés se sépare les plusieurs tâches qui le font rouler. Lors des mois occupés, à peu près 500 personnes franchissent les portes du magasin, a fait valoir la caissière. Lorsqu'elle se rapproche de son poste, Madame Gosselin pointe vers une petite pile de sacs de vidange contenant tous les draps et d'autres objets matériels, les draps qu'elle doit trier et plier. Lorsqu'on lui demande quelle est son expérience la plus mémorable à l'intérieur des quatre murs du centre, Madame Gosselin devient silencieuse pendant un instant, songeant à sa réponse. « Je crois que les expériences que je vis ici chaque mercredi sont mémorables. C'est au niveau humain que je tire mes plus belles expériences. Les bénévoles et les employés ont tous la même philosophie, aider les autres. »
temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde, et qu'éternellement, il y aura dans nos yeux tout le ciel bleu. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure.
Andrea Linzé sur les ondes de Canal M avec Le Temps de l'amour. Je vous rappelle que c'est Clotilde Say qui vous accompagne. C'est l'émission Le National sur les ondes de Canal M, la radio de Vues et Voix, bien sûr. Et là, je vous amène en balade hein, grâce aux journaux francophones et à tout ce qui s'écrit partout au Canada dans notre belle langue de Molière. Et là, il s'agit d'un éditorial de Julien Caillouette qui est paru dans lavoixdunord.ca. Un éditorial qui s'intitule « Ne vous noyez pas dans votre bulle » et vous allez comprendre assez rapidement de quoi il s'agit. Monsieur Caillouette qui nous dit « L'Association de la presse francophone a publié l'automne dernier la charte de la presse écrite de langue française en situation minoritaire au Canada. On y retrouve une série de valeurs fondamentales des journalistes dont celle-ci, la rigueur, ce qui les mène à chercher la vérité, à examiner les différentes facettes d'une situation et à présenter les faits avec exactitude et discernement. Le temps serait-il venu d'adopter une charte du bon citoyen qui contiendrait un article similaire, se demande M. Caillouette. Nous nous attaquerons ici aux bulles d'information que créent les algorithmes de Facebook, Google et autres entreprises aux visées de domination mondiale ou du moins de contrôle de votre vie. Vous savez, ces micro-univers centrés autour des opinions et des idées préconçues des utilisateurs et contrôlés par leurs émotions et leurs listes de magasinage. Dans un monde où Facebook devient la principale source d'information de beaucoup de gens, et où ils se contentent de lire un titre pour se faire une opinion, les bulles d'information deviennent de plus en plus opaques et difficiles à crever. Parce que Facebook vous présente des sujets selon ce que vous aimez. Il évitera de vous présenter ce qui risque de vous déplaire ou d'ébranler vos opinions. Exemple. Supposons que l'une de vos connaissances Facebook croit déjà que les vaccins sont du poison et partage régulièrement des articles et des vidéos pour réaffirmer son point de vue. Si vous avez le malheur de regarder, ou pire encore, aimer, la vieille vidéo d'un acteur américain qui jappe contre la vaccination, vous êtes fait. Facebook croira que vous êtes anti-vaccination aussi et fera tout en son pouvoir pour que vous le restiez. Ici, comme n'importe quelle drogue, il faut faire un effort pour s'en sortir. Il faut quitter pendant quelques minutes le cocon réconfortant de Facebook. Entrez dans celui un peu plus inquiétant de Google et regardez ce qu'il y a de l'autre côté de la médaille. Et nous attirons particulièrement votre attention sur le mot « fait ». F-A-I-T-S, contenues dans la valeur ci-dessus. Il faut aller vérifier les faits. Le sujet qu'a lancé votre recherche, peu importe l'émotion qu'il vous a initialement fait vivre, peut être vrai ou faux. L'important, c'est de ne pas croire la première chose qu'on lit et de vérifier les faits, ce qui a été prouvé scientifiquement ou d'une autre façon. Pour boucler notre exemple, il est facile de trouver sur le web que celui qui a écrit la recherche sur laquelle se base le mouvement anti-vaccination a lui-même avoué qu'il a menti dans sa recherche. Il a inventé des cas d'autisme qui n'existaient pas. Vous nous demanderez comment faire confiance aux scientifiques s'ils se mettent à mentir eux aussi. Vous avez raison. Le doute est de toute façon à la base de la science, mais quand quelqu'un avoue son mensonge, on n'a plus raison de croire ce qu'il a dit auparavant. Ce que nous voulons que vous reteniez ici, c'est de ne pas vous fier à une seule source d'information, surtout lorsque le sujet est controversé. Allez voir à gauche, à droite, au Canada, en Europe, aux États-Unis, lisez plus d'un journal, consultez plus qu'un site web de nouvelles afin d'avoir une meilleure idée de l'univers dans lequel vous vivez. Vous savez, c'est un peu comme les coupons rabais qui vous font chercher la meilleure aubaine. Cherchez la meilleure information, non pas celle qui vous fait le plus plaisir, mais celle qui est objectivement plus plausible. Et vous, que mettriez-vous dans une charte du bon citoyen, de conclure M. Caillouette dans cet éditorial de La Voix du Nord. Restez des nôtres, lorsque je vais revenir en seconde partie, il sera question de pénurie d'enseignants francophones, toujours dans la Voie du Nord, en Ontario. Il sera question de comportement humain, c'est une exposition qui questionne à Whitehorse. Il sera question de réchauffement climatique et il semblerait que les communautés côtières de l'île du Prince-Édouard sont à risque. Il sera aussi question de musique ensoleillée avec tambour meringué et chaleur humaine à Festive Ébène. Clotilde Seuil, Le National, seconde partie.
Avec ma yeux. Passer notre vie à découvert comme un. S'en aller. On passe notre vie à découvert comme un. Passer les yeux.
Bon, la voiture volante a fini par se cracher, peut-être. La voiture volante de Claude Bégin, c'est une nouveauté sur les ondes de Canal M. Je poursuis pour vous la lecture de ce que j'ai trouvé dans des journaux francophones de partout au pays, d'est en ouest. J'ai fini en la première partie avec La Voix du Nord. J'y retourne dans La Voix du Nord avec Coralie Mpoyo et Julien Caillouette qui nous parlent de la pénurie d'enseignants francophones et des limites de la formation et la concurrence multiple. La pénurie d'enseignants francophones a gagné le nord de la province. On parle de l'Ontario. Le gouvernement a commencé à mettre en place des stratégies de promotion et de recrutement, mais les interventions en éducation soulignent que les deux années nécessaires à l'obtention du diplôme, depuis 2013, refroidissent les ardeurs des étudiants intéressés par la profession. Le problème est dans tout l'Ontario maintenant. Avant, c'était plus dans le sud, où la population est en croissance, mais c'est le cas aussi maintenant dans le nord, affirme le directeur de l'éducation du Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario, GSPGNO pour l'acronyme, Marc Gauthier. La gérante des ressources humaines et des services d'appui du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières, CSCDGR pour l'acronyme, Julie Bisson, souligne le problème persistant du recrutement qui crée une compétition entre les conseils. Nous avons de moins en moins d'enseignants francophones qualifiés qui sortent des facultés d'éducation. Le manque de main-d'œuvre à plusieurs niveaux est problématique non seulement pour notre conseil, mais aussi pour plusieurs de nos conseils limitrophes. M. Gauthier confirme que la concurrence existe également entre les conseils scolaires anglophones qui donnent des programmes d'immersion et les conseils scolaires francophones, car tous font appel au même bassin de finissants francophones. Les diplômés ont l'embarras du choix des postes. Ils choisissent les communautés où ils veulent vivre. Même à Sudbury, nous n'avons pas assez de suppléants qualifiés sur nos listes pour répondre à nos besoins. C'est ce qui fait qu'on a des difficultés pour recruter dans nos communautés rurales. Les 12 conseils scolaires de langue française font face aux mêmes défis, et c'est une période critique, déclare M. Gauthier. Nos collègues anglophones ont même dû annuler les programmes d'immersion dans certaines écoles, ajoute-t-il. Le président des associations des enseignantes et enseignants franco-ontariens, l'AEFO, Rémi Sabourin, souligne que cette pénurie limite les capacités d'accueillir tous ceux qui pourraient fréquenter une école de langue française. Plus de 30 000 ayants droit sont dans les écoles anglophones et si on veut les recruter, il faut que nous ayons suffisamment d'enseignants, lance-t-il. En janvier 2018, les ministères de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle ont lancé une campagne qui comprenait entre autres une brochure intitulée « Enseigner en français en Ontario » afin de promouvoir les occasions d'enseigner en français. La coordonnatrice principale des relations avec les médias du ministère de l'Éducation, Heather Irwin, affirme que le ministère travaille en étroite collaboration avec les éducateurs ainsi qu'avec le personnel des conseils scolaires et des partenaires internationaux des pays francophones, afin de les encourager à promouvoir la profession d'enseignant auprès de leurs étudiants et des enseignants formés à l'étranger. Elle explique que le ministère collabore actuellement avec les facultés d'éducation de langue française en vue d'accélérer l'élaboration et la mise en place de modèles de formation à l'enseignement flexible qui pourront utiliser différents formats pédagogiques, notamment l'enseignement en ligne, hybride et accéléré. Elle pense qu'ils tiendront compte des défis auxquels les petites communautés rurales font face en matière de recrutement et de maintien en poste du personnel enseignant. Le Centre de demande d'admission aux universités de l'Ontario a indiqué en janvier que les données recueillies au cours de l'année scolaire 2017-2018 révélaient une augmentation significative des demandes d'admission dans les facultés d'éducation de langue française, tous cycles confondus. Plus particulièrement, une augmentation de 44% dans le cycle primaire et moyen, de 74% dans le cycle moyen et intermédiaire et de 13% dans le cycle intermédiaire et supérieur, révèle Mme Irwin. L'adjointe administrative de l'École des sciences de l'éducation de l'Université Laurentienne, Diane Saint-Cyr, a confirmé au journal Le Voyageur qu'il y a eu une augmentation des inscriptions au programme en 2017, mais sans donner de chiffres exacts. Marc Gauthier s'est dit heureux des actions entreprises par le ministère, puisque les conseils scolaires demandent de l'action depuis longtemps, mais il préfère reporter son optimisme pour le jour où il aura vu le plan. La demande est toujours la même, mais l'offre a diminué énormément. Par exemple, l'Université Laurentienne diplômait en moyenne 160 étudiants par année. Depuis le changement de la formation d'un an à deux ans après un baccalauréat, plus la coupure des nombres de places au sein des facultés, elle n'en diplôme maintenant qu'entre 65 et 70, chiffre-t-il. Nous devons trouver de nouvelles stratégies de recrutement et de rétention, autant locales qu'au provincial, propose de son côté Julie Bisson. Le président de l'AEFO, Rémi Sabourin, est optimiste concernant les actions du gouvernement et leur effet à long terme, mais il évoque la complexité du problème qui, selon lui, ne peut pas se résoudre en une décision. On avait sonné l'alarme en 2013 parce que nous avons vu venir ce problème avec le diplôme qui passait d'un an à deux ans, dit-il. Rappelons qu'en Ontario, le programme d'éducation donne à l'étudiant un deuxième baccalauréat. Ils doivent d'abord obtenir un baccalauréat en éducation ou dans un autre programme universitaire avant d'entreprendre les deux années d'études qui leur permettront de devenir enseignants. Avant 2013, ce programme n'était que d'une année. Parmi les problèmes, M. Sabourin évoque la mauvaise presse du métier. Il faut bien communiquer les perspectives d'emploi en enseignement. Pendant plusieurs années, la profession a été matraquée par différents gouvernements. C'est important de la revaloriser et de rehausser son image par la promotion dans les médias, les écoles et les universités. Pour Marc Gauthier, le programme n'est pas attrayant parce qu'il est trop long. Ce serait souhaitable que le programme de deux ans devienne une maîtrise et que les salaires soient plus élevés à l'entrée de la profession. Sa deuxième proposition est d'ailleurs partagée par M. Sabourin.
Quand le soleil s'élevait sur un horizon lourd, dans la furie des feux qui brûlent l'innocence, mais dans le bruit tonnant qui voile les contours, tu as poussé ton chant par-dessus les silences. L'écho en retour ne t'a donné que des cendres et a chuchoté au dessein de tes méandres d'aller ton chemin. Tu peux marcher par où tu vas. Ton cœur est là, tout ramanché sous ton épaule, te lâchera pas. Tout ce que t'as compris, c'est qu'il fallait partir, que si tu restais là, il ferait plus jamais beau. La vie a couché sur le ciel tous tes désirs. T'as traversé la mort sur un sombre radeau. La mer a pris tes rêves et la nuit ton espoir. Ce qu'il te reste ici, c'est la liberté noire d'aller ton chemin. Tu peux marcher par où tu vas. Ton cœur est là, ben accroché sur ton guidon, guide ton pas. T'as tout laissé là-bas pour pouvoir ériger le jour. mais tes fantômes toujours te ramènent au combat. Ici, dans la lumière, t'as souvent les yeux sourds. Avoir ta vie dans le vieux rêve d'être chez toi. Le sol brisé de tes racines casse la route. Et à chaque heure, tu mesures ce que ça coûte d'aller ton chemin. Tu peux marcher. Par où tu vas? Ton cœur est là, tout ramanché sous ton épaule. Te lâchera pas. Tu peux marcher. Par où tu vas? Ton cœur est là, ben accroché sur ton guidon, guide ton pas. Ton cœur est là, tout ramanché sous ton épaule, guide ton pas.
Ça, c'est un monsieur qui sait faire des chansons. David Portelance, cet extrait de son plus récent album Un abri contre le vent, et la chanson s'appelait Tu peux marcher. Dans le journal Aurore Boréale.ca, j'ai trouvé un papier intéressant qui s'intitule Comportements humains, une exposition qui questionne, et c'est Olivier de Colombelle qui nous en parle. L'exposition Comportements humains est la 5e édition du projet Exposition hivernale menée par l'association franco-yukonaise, qu'on appelle aussi l'AFY, en partenariat avec la galerie Arts Underground à Whitehorse. Comportements humains, c'est un thème proche de nous sur lequel il y a bien des choses à dire et à faire. L'humain et son paradoxe, une essence propre qu'il retranscrit dans l'art, car l'art et l'artiste n'existent pas sans paradoxe. Édouard Baird, acteur et artiste français, rappelle « Le paradoxe de l'artiste, c'est de donner le meilleur de soi-même tout en croyant ne rien savoir faire. » Alors, 4 artistes francophones exposent leurs créations sous ce thème « Comportements humains » à la galerie Art Undergrounds, et ce jusqu'au 24 février, donc c'est à Whitehorse. Gorelhomme, ça s'écrit G-O-R-E-2-L-A-U-M-E, Arts Underground, et ce, pardon, Gorelhomme, Joe la Jolie, et non pas la Folie, Joe la Jolie, José Jacques et Michel Gignac sont les artistes de cette exposition collective financée par le Fonds d'opération pour les arts du gouvernement du Yukon. À travers leurs créations, ils répondent à bien des questions entourant le comportement humain. Que devons-nous attendre des gens qui nous entourent? Comment devons-nous aborder les autres, socialiser, entrer en relation? Qu'est-ce qui fait qu'un geste doit être dénoncé ou félicité? Nous condamnons les agissements de certaines personnes publiques, mais nous acceptons quotidiennement des actes cruels au travail, entre amis ou en amour. Avons-nous le droit de tout critiquer et de condamner rapidement? Pourquoi ne sommes-nous pas plus empathiques? Toutes ces questions qui trouvent un écho tonitruant dans l'actualité internationale de notre société moderne. L'exposition Comportements humains invite donc les artistes visuels à explorer l'évolution de nos mœurs et de ce qu'on peut qualifier de code de conduite moderne. Cela permet d'offrir une expérience aux artistes émergents et professionnels francophones et francophiles d'exposer dans une galerie d'art reconnue par le milieu yukonais des arts et de la culture. Depuis les 2 dernières éditions, l'espace est partagé avec des artistes anglophones qui amènent aussi leur clientèle, explique Roch Nadon, directeur du service Arts et Culture à l'AFY. Il ajoute « Cette année, pour une première fois, il y avait un comité de sélection des pairs, donc des artistes reconnus dans la communauté, se basant sur des critères précis pour sélectionner les artistes exposants. La constitution du comité reste confidentielle, donc ce n'était pas l'équipe de l'AFY qui a fait ses choix. On voulait que cela soit plus transparent, plus professionnel. » Artiste aux multiples talents, Gorelhomme s'est installé au Yukon il y a peu. Son site est passionnant à découvrir, www.necessaryexperience.net. On y trouve des productions murales, des esquisses, des tableaux, des tattoos et bien d'autres. Il partage ce texte qu'il a créé pour l'exposition « Comportement humain ». Ce texte est un écho, un miroir au tableau qu'il a créé sous le thème organique de la forêt. No man is an island. Peut-être, mais chaque personne me semble être une forêt, tant la somme de nos expériences, bagages personnels, références et ressentis crée un ensemble complexe, vivant et en constante évolution, avec ses parts d'ombre, ses chemins balisés ou détournés, ses clairières accueillantes et ses zones impraticables où personne ne peut s'aventurer. Aborder l'autre en reconnaissant la complexité de la vie intérieure et les parts d'ombre de chacun me semble important pour établir une relation saine. Loin de s'apparenter à un joli jardin sans mauvaise herbe, bien entretenu, notre vie intérieure se développe à notre insu de façon sauvage, sans que nous ayons aucun réel pouvoir dessus. Nos histoires et nos bagages forment un tout qui, à l'image de la forêt, donne sans cesse naissance à de nouvelles branches, de nouvelles pousses, à partir de nos nouvelles expériences. Cette toile, loin d'être un avis de défaite devant la complexité, se veut ainsi une invitation à la rencontre. Promenons-nous dans les bois. Alors, à découvrir sur place également le travail de Joe Lajolie et de Michel Gignac. Bonne exposition, nous dit-on pour conclure.
Suponer cuál es la cruz que un día llevarás. Preferible andar a ciegas con el riesgo de sentir no más.
Ay, mi vidita, ¿por qué te estás quedando tan solo?
Cuando decidas dar un ramito de ti, cambiarán las cosas.
Ay, mi vidita, ¿por qué te estás solo?
Cuando decidas dar un ramito de ti, cambiarán las cosas. Nadie te dirá cuál es la luz que vive en tu mirar, ni el camino recto que te lleva al corazón. No hay que suponer cuál es la ley que un día te darán. Preferible amar a ciegas con el riesgo de sentir no más.
Ay, mi vidita, ¿por qué te estás quedando tan solo?
Cuando decidas dar un ramito de ti, cambiarán las cosas. No sabrás en qué noche de luna moverás en el cielo. No sabrás que nube hará una sombra, ni en qué despertar será solpito. Nadie adivinó la mariposa que vino a su balcón.
Debout sur la piste de danse, main levée, les participants de la soirée multiculturelle concluant la 11e édition de Festiveben affichent un large sourire. C'était le samedi 17 février à St. Catharines. Portés par des harmonies funk et des blues de Donny Roberts, ils dansent autant qu'ils voyagent dans l'univers du chanteur, musicien et compositeur d'origine malgache, nous dit-on dans leregional.com. Accompagné d'un saxophoniste, d'un batteur et d'un bassiste au diapason, le lauréat du prix Juno 2005 du meilleur album dans la catégorie musique du monde a offert un savant mélange de mélodies traditionnelles et de musique moderne. De l'océan Indien à la mer des Caraïbes, il n'y a qu'un pas de danse. Le mélange enivrant de compas, zouk et meringue distillé par Sérénade d'Haïti a immédiatement provoqué une cascade de déhanchés sous les grands lustres de la salle de spectacle de la Légion royale canadienne. La formation musicale de Hamilton a proposé un répertoire varié, tout en rythme et en légèreté, rendant subitement les places assises inutiles et sans intérêt. Un peu plus tôt dans la soirée, les danseurs burundais de Remesha Drums ont emballé l'auditoire dans un impressionnant spectacle de danse et de percussion. Les battements de tambour traditionnels en symbiose avec les danseuses costumées ont sonné comme une invitation à danser et à jouer soi-même. Chacun pouvait s'essayer à frapper en rythme sur l'énorme instrument taillé dans le bois africain, dans une acoustique procurant des frissons aux petits comme aux grands. Initiée par Solidarité des femmes et familles immigrantes francophones du Niagara, Sophie Fran, sous la direction artistique de Nafé Faïgou, cette soirée dédiée à la culture africaine coïncidait avec le mois de l'histoire des Noirs. Elle a conclu une quinzaine de jours de festival à Sainte-Catharines, marquée par deux expositions sur le pouvoir au féminin et le matriarcat en Afrique, un atelier et une conférence bilingue ouvert au public à l'Université Brock. Justine Gogwa, fondatrice du groupe des arts Bassan, est également intervenue dans les écoles élémentaires pour sensibiliser les enfants aux arts africains. Et pour finir, un sujet peut-être un peu inquiétant qui nous vient de la voix acadienne.com. C'est Alexandre Roy qui nous parle de l'île du Prince-Édouard et qui nous dit que les communautés côtières de l'île sont à risque. Les changements climatiques entraîneront des conséquences à plus ou moins long terme. Une de ces conséquences est la hausse du niveau de la mer. Selon les données colligées par le laboratoire des changements climatiques de l'Université de l'île du Prince-Édouard, le niveau de la mer a haussé de 32 cm au port de Charlottetown entre 1911 et 2008. Citant les plus récentes recherches en ce sens, le laboratoire avertit que la mer pourrait se gonfler de 2 à 2,7 mètres d'ici 2100. Cela, évidemment, aura des répercussions sur notre petite île du Prince-Édouard et sur toutes les communautés côtières qui seront particulièrement vulnérables. À la fin du mois d'octobre 2017, le laboratoire a publié un rapport de recommandations pour s'adapter au changement climatique. Le directeur du laboratoire, le professeur Adam Fenech, et son équipe ont entrepris une tournée de 4 réunions d'information dans les collectivités côtières. La première réunion a eu lieu le 16 février dernier à Lennox Island, une petite île au relief très bas où tout semble construit près de l'eau, incluant l'église Sainte-Anne et le cimetière qui sont sur le bord de l'eau. Par chance, un système de pierrage a été établi pour consolider la base et limiter l'érosion à cet endroit précis. Le laboratoire du pays a étudié avec beaucoup d'attention des communautés autochtones, incluant celles de Lennox Island. Elles sont vulnérables à une hausse de 2 et même 3 mètres. L'île Lennox est située sur la côte nord de l'île et fait donc face au golfe du Saint-Laurent. Cependant, elle est protégée par la présence de l'île Hog, qui agit comme un brise-lame. Ce banc de sable, qui a une valeur spirituelle traditionnelle pour les Micmacs, sert aussi de défense naturelle, mais dans un scénario où l'eau monterait de 2 ou voire même de 3 mètres, elle ne servirait plus à grand-chose. Confrontés à ces données presque apocalyptiques, les citoyens de Lennox Island ont réagi promptement. « Vous venez ici nous dire que nous devons nous adapter, mais ce n'est pas nous qui causons ce problème. Cela n'a jamais fait partie de nos coutumes et cela n'aurait jamais dû nous atteindre. » Ce sont les décisions des gouvernements et des grandes corporations qui ont causé cela. Et où sont-ils ? A lancé Leslie Lalobe, ou Labob, qui craint de perdre sa propre maison d'ici 25 ans. Une des priorités pour les Lennox Island et pour la sécurité de ses citoyens est de conserver intact l'accès terrestre à l'île par le pont chaussé. Or, lors d'un épisode de pluie intense, en 2010, l'île a été coupée du monde. Le rapport d'adaptation au changement climatique du laboratoire dirigé par Adam Fenech contient 93 recommandations portant sur l'adaptation aux températures, aux précipitations, aux météos extrêmes, à la hausse du niveau de la mer, au vent, à la couverture de glace sur l'eau en hiver et à la qualité de l'air. Les changements climatiques nous affectent tous, nous devons prendre nos responsabilités dans nos milieux respectifs et nos sphères décisionnelles, que ce soit à titre d'individus, d'entreprises, de chercheurs, d'organisations non gouvernementales. Nous devons sans tarder développer une stratégie d'adaptation aux changements qui ne manqueront pas de survenir, a indiqué Adam Fenech. Par ailleurs, Une réunion d'information a eu lieu à Rustico le 20 février. Une troisième aura lieu le jeudi 22 février à la caserne des pompiers de Tyne Valley. Le 6 mars, l'équipe sera dans l'est de l'île à l'Eastern Kings Community Center à Bothwell. Et cette dernière réunion sera à 13h30 alors que les autres sont à 18h30 et d'autres réunions publiques auront lieu durant l'été. Voilà ce qui vient mettre un terme à l'émission Le National. Merci d'avoir été là et merci à Mathieu Tessier qui m'a accompagné en régie ce midi. C'était Clotilde Seille. À bientôt.